Bonjour Michael Pecker.
Bonjour Tania.
Héberger les requérants d'asile dans des abris de protection civile, c'est inacceptable pour une partie de la classe politique genevoise. La gauche et le PDC ont déposé une motion qui demande au Conseil d'État de renoncer à loger les requérants d'asile sous terre pendant plus de 3 mois. Une victoire pour le collectif Stop Bunker qui dénonce depuis plusieurs semaines les conditions de vie inhumaines dans les abris PC du canton, Michael.
Manque d'air frais, absence de soleil, bruit permanent, des membres d'associations et des demandeurs d'asile ont récemment manifesté à Genève pour dénoncer des conditions d'hébergement insalubres. Écoutez le témoignage de ce requérant soudanais qui s'exprimait il y a peu sur notre antenne.
Our life is up.
Notre vie est sans dessus-dessous. On se réveille la nuit, le jour, on dort. Il n'y a que 6 toilettes pour 60 personnes, vous pouvez imaginer ? Et elles sont toujours sales. Il y a 66 lits superposés reliés les uns aux autres. Si une personne se lève, tout le monde se réveille. Ceux qui vont au cours de français n'arrivent pas à les suivre parce qu'ils n'ont pas dormi.
Ces doléances, les autorités l'ont promis, elles y répondront. D'ici là, aucun commentaire de la part de l'Hospice Général du canton.
Et Genève n'est pas le seul canton à faire face à la problématique d'hébergement des demandeurs d'asile.
Non, face à l'explosion du nombre de réfugiés, de nombreux autres cantons ont recours aux abris PC. En Suisse romande, c'est le cas notamment de Neuchâtel, Berne, Fribourg, qui comptent chacun une structure de ce type sur leur territoire. Vaud, lui, se démarque très nettement avec 9 abris PC exploités. Le canton détient donc le record de Suisse romande. Un collectif s'était d'ailleurs mobilisé en juin de l'année dernière à Lausanne pour dénoncer la bunkérisation de la politique d'asile.
Les cantons doivent-ils renoncer à loger les requérants dans les abris PC ? C'est le débat du jour et vous pouvez donner votre avis. Il vous suffit de vous rendre sur Facebook ou sur Twitter en utilisant le hashtag ENLD. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 0800 23 33 33.
En ligne directe, Tania Baril.
Et ce matin, pour débattre, j'accueille Philippe Lebas, conseiller d'État vaudois en charge du département de l'économie et des sports, notamment responsable des questions d'asile. Bonjour.
Bonjour.
Alexandre Casella, bonjour à vous. Vous êtes ancien directeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Et j'accueille finalement Lise Amazon, députée verte au Grand Conseil Genevois. Bonjour à vous.
Bonjour.
Lise Amazon, vous avez déposé une motion au Grand Conseil Genevois pour dénoncer les conditions de vie des requérants d'asile. Alors en quoi ces conditions se sont détériorées ? Qu'est-ce que vous dénoncez concrètement ?
Alors ce qui est exceptionnel, c'est qu'on constate que le recours aux abris de protection civile se banalise et puis les durées de séjour dans ces lieux s'allongent, allant jusqu'à 6 mois, voire une année, avec des personnes qui ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées, qui sont logés dans ces endroits, elles ne savent pas pour combien de temps, dans des conditions que vous avez décrites tout à l'heure, qui ont dépassé clairement le seuil du tolérable, qui portent atteinte à leur intégrité et qui ne leur permet pas de s'intégrer à terme et dans une situation où elles vivent clairement une forme d'exclusion sociale et de dégradation de leur personnalité.
On vient d'entendre le témoignage d'un requérant il y a juste quelques instants. Il parlait des questions d'hygiène, du manque de place. Ce sont les plaintes les plus souvent formulées, celles que vous avez le plus entendues ?
Effectivement, on a rencontré un certain nombre de requérants d'asile, parce qu'il faut quand même relever la situation exceptionnelle qui fait que les demandeurs d'asile eux-mêmes s'expriment, alors que c'est une population qui est fragilisée, qui est souvent craintive par rapport à des éventuelles représailles quant au traitement de leur dossier. C'est dire si la situation n'est plus tolérable et n'est plus supportable pour eux. Et effectivement, ils sont venus nous voir et on entend ce genre de témoignages qui montrent que il s'agit d'agir rapidement, d'abord en limitant clairement le recours aux abris de protection civile et puis en les réattribuant à une situation exceptionnelle pour une durée très courte.
Philippe Lebas, en tant que responsable des questions liées à l'asile dans le canton de Vaud, vous avez été confronté à ce type de critique. Abriter des requérants sous terre durant une longue période, c'est atteindre à leur dignité. Vous partagez ce constat ?
Alors d'abord, les juridictions qui sont déterminées sur cette question affirment le contraire, ont validé, lorsqu'elles étaient saisies d'un recours portant sur un hébergement en abri, ont validé les décisions administratives, ça c'est le premier point. Avant toute chose, j'aimerais quand même rappeler les efforts considérables qui sont faits par la Suisse, par les Suisses, par les budgets cotonaux et fédéraux pour l'hébergement de requérants d'asile. C'est un premier point, il faudrait peut-être commencer par là. Et parfois, je le disais il y a quelques semaines à votre antenne, parfois commencer par dire merci aux Suisses pour les efforts qu'ils font. Deuxième élément, sur la question de l'hébergement en abri de protection civile. Ce n'est pas un choix délibéré des autorités, ni à Genève, ni à Neuchâtel, ni à Fribourg, ni dans le canton de Vaud. Nous n'avons tout simplement pas d'autre solution. Parce que c'est bien facile de dire « il faudrait faire autrement ». La difficulté, c'est que nous sommes confrontés, et les élus genevois le savent bien, à une crise du logement considérable sur le bassin lémanique. Et par voie de conséquence, vous imaginez bien que la population indigène, pour prendre une expression de cette nature-là, ne tolérerait pas que l'on réquisitionne des logements pour abriter des requérants d'asile. On doit donc tenir compte de cette situation-là. Premier élément. Deuxième élément, si nous sommes favorables à une accélération des procédures, nous constatons souvent que les requérants eux-mêmes, et parfois même ceux qui sont en abri de protection civile, ne facilitent pas l'accélération des procédures. Et par voie de conséquence, contribuent à l'allongement de la procédure et donc de leur hébergement en abri de protection civile. Et c'est aussi le cas parfois, pas toujours, mais parfois, de mouvements qui défendent les requérants d'asile. Il faut donc, si l'on souhaite traiter rapidement ces demandes d'asile pour limiter ce que je souhaite également, la durée en abri de protection civile, que chacun fasse en sorte que le droit, lorsqu'il est prononcé par les tribunaux et lorsque cela conduit au départ du requérant, y contribue.
On va parler des solutions dans quelques instants. Mais là, si on en revient juste au constat. Aujourd'hui, dans le canton de Vaud, il y a 9 abris PC, on l'a dit. Est-ce que c'est trop, selon vous, Philippe Lebas ?
C'est trop. Tout dépend du critère. L'important, c'est que chacun ait un toit. Point numéro 1. Et bénéficie des prestations minimum prévues par les législations. C'est le cas dans le canton de Vaud. Il n'y a pas un requérant d'asile qui dort dehors. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, les flux migratoires. Les flux migratoires sont très mobiles, très fluctuants, si je peux dire les choses comme ça. Et par voie de conséquence, vous devez avoir une souplesse dans la gestion des lits et des lieux d'hébergement. Il est beaucoup plus facile, enfin il est moins difficile, de mettre sur pied rapidement un abri de protection civile pour héberger tout d'un coup 30 ou 40 requérants d'asile supplémentaires qui arrivent, qu'il n'est facile de vider un immeuble de locataires pour pouvoir y mettre les mêmes requérants d'asile. Ça, je pense que chacun peut le comprendre. Nous avons besoin de cette souplesse. Aujourd'hui, en 2014, il y a probablement eu 23 000 demandes d'asile déposées en Suisse. Selon les dernières projections en 2015, il devrait y en avoir 29 000. Vous ne pouvez pas avoir une gestion du parc immobilier en main de l'ensemble des cantons suisses est destiné à l'hébergement des requérants d'asile avec une différence du nombre de pièces, du nombre d'appartements, du nombre de lits aussi importante. C'est donc indispensable d'avoir la souplesse qu'offre la réquisition d'abri de protection civile.
Lisa Mazone, vous comprenez ces arguments que vient d'évoquer Philippe Lebas ?
Non, assez peu. Je dois dire d'une part que c'est important de rappeler que la situation de l'asile aujourd'hui, puis là on va quand même démonter un mythe, n'est pas une situation extraordinaire. Je rappelle quand même que dans les années, à la fin des années 90, on avait plus de 40 000 demandes d'asile pendant la crise des Balkans. Donc là, on n'est pas dans ce genre de situation. On est, comme l'a dit Monsieur Lebas, en 2014, on enregistrait un peu moins de 24 000. C'était moins qu'en 2012. Donc, par conséquent, on est dans une situation qui est relativement dans la moyenne des 10 dernières années. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 2005, où on a eu des demandes qui étaient particulièrement basses et une politique, notamment menée par Monsieur Blocher au niveau du Conseil fédéral qui visait à réduire le nombre d'hébergements ou de places prévues par les cantons, eh bien, il y a eu une directive qui disait qu'on ne constituait plus de locaux de réserve dans les cantons et par conséquent, on a vu quand même un certain nombre de centres fermés, en tout cas à Genève, je peux vous en citer un certain nombre qui ont fermé depuis lors, et on a eu une politique clairement attentiste face à la situation internationale mouvante et qui était prévisible, en tout cas que les demandes allaient augmenter, c'était prévisible en tout cas depuis 2008 où les cantons ont repris la charge de ces logements supplémentaires et on a clairement spéculé sur un certain nombre d'éléments qui nous ont mis dans une situation où on n'anticipait absolument pas ces demandes d'asile et on se contentait, on s'accommodait clairement du recours en abri de protection civile. Et là, je pense qu'il s'agit de changer l'angle qu'on a dans cette thématique pour vraiment apporter rétablissement, comme le prévoit la Convention de Genève, à ces personnes qui fuient leur pays d'origine dans des situations, notamment en Syrie, de conflits armés très violents. Et puis je rappelle quand même qu'on estime que les personnes ne peuvent pas habiter sous terre. Et la loi suisse prévoit notamment qu'on ne puisse pas construire d'habitation en dessous du sol. Par conséquent, il n'est pas acceptable non plus que l'on loge de cette manière-là des requérants d'asile. Ce serait les traiter comme des êtres humains de seconde zone, ce qui est absolument pas recevable.
Avant de donner la parole à Alexandre Casella, Philippe Lebas, je vais vous laisser répondre très rapidement. Est-ce que vous n'avez tout simplement pas assez anticipé ?
Anticiper, ça veut dire quoi dans la bouche de Madame Mazonet ? C'est-à-dire, ça consisterait à conserver un certain nombre d'appartements en réserve des flux migratoires. Autrement dit, conserver des appartements libres alors que les étudiants, les personnes âgées, les personnes de condition modeste ont de la peine à se loger. Je constate que lorsqu'un propriétaire... Est-ce que je peux peut-être terminer, madame, si volontiers, c'est mieux pour l'ensemble des auditeurs, me semble-t-il. Lorsqu'un propriétaire conserve des logements vides, le parti de Madame Mazonet, notamment comme d'autres, à juste titre, critique le fait de laisser les appartements vides alors qu'il y a une crise du logement. Vous imaginez que l'État investisse, dépense l'argent du contribuable pour conserver des appartements vides alors qu'il y a une crise du logement. Personne ne l'admettrait. Nous avons essayé d'avoir la souplesse requise par Madame Mazonet dans le canton de Vaud, où nous avions un immeuble de l'EVAM. Compte tenu de la baisse du nombre
vaudois d'accueil des migrants.
Voilà. Compte tenu de la baisse du nombre de requérants attribués au canton de Vaud, nous avions relogé temporairement des locataires vaudois, des indigènes. Eh bien, au moment où il a fallu requérir ces appartements pour la mission pour laquelle ils étaient faits, eh bien, il y a eu une tempête en disant, je vous le cite, on met dehors de bons Suisses pour y héberger des requérants d'asile. Et personne ne souhaite qu'au travers de ce type de choix, nous fassions monter la xénophobie de notre canton.
Alexandre Casella, je l'ai dit, hein, vous avez été directeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et ce pendant 20 ans. Quel regard vous portez sur ce combat qui est mené aujourd'hui, par exemple, à Genève? La dignité des réfugiés en Suisse, elle est bafouée, selon vous?
Alors, pour être précis, j'étais un des directeurs au HCR, j'étais pas le directeur du HCR. Mais ceci dit, je pense qu'il y a plusieurs choses dont il faut tenir compte. Il est certain qu'il faut un standing minimum, que dans certaines conditions, on ne peut pas héberger des gens, et donc qu'il faut trouver la juste mesure. Et le problème, justement, c'est de trouver cette juste mesure. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans l'ethnocentrisme. Je me rappelle les camps pour réfugiés vietnamiens à Hong Kong. Les représentants des ONG américaines qui venaient étaient effarés par les conditions de vie. Les gens vivaient les uns sur les autres. Bien, c'était de la même façon que les gens habitaient au Vietnam chez eux. Donc, ce qui pour un occidental était quasiment inacceptable était la norme pour un Vietnamien. Et donc, pour eux, ça allait très bien. Et aussi, une autre chose dont il ne faut pas oublier, c'est que ces nouveaux arrivants qui sont parfois des réfugiés, parfois des migrants, parfois des réfugiés qui ont déjà l'asile et qui cherchent à émigrer, ils s'attendent à trouver en Occident un Eldorado. Et cet Eldorado, évidemment, n'existe pas. Ils ne comparent pas leur façon de vivre en Europe avec celle dans leur pays d'origine. Et il y a là une très grande déception. Et je pense que c'est en tenant compte de tous ces éléments que les cantons, avec les moyens à leur disposition, font au mieux.
Il est 8h21 sur la première. Les cantons doivent-ils renoncer à accueillir les requérants d'asile dans des bunkers? C'est le débat du jour et vous pouvez y participer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par téléphone au 0800 23 33. 33 33. Michael, pas mal de réactions sur les réseaux sociaux ce matin.
Oui, un débat avec des arguments tout de même assez tranchés. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à nous appeler avec ces mêmes arguments. Peu d'internautes déplorent les conditions de vie dans les abris PC. Une position principale se dégage très nettement. Mais de quoi se plaint-on? Alors, il y a une voire deux voix isolées pour dénoncer le traitement infligé aux requérants d'asile, mais pour une large majorité des participants, héberger des demandeurs d'asile dans des bunkers souterrains, ça n'a rien de scandaleux, loin de là. Pour Jérôme Desmeules, député UDC au Grand Conseil Valaisan, un individu qui craint pour sa vie devrait être heureux d'être même dans une cabane en bois, pour autant qu'il y soit en sécurité. Même son de cloche pour Jonathan, pour qui le sujet est tout simplement un faux débat. La dignité humaine est garantie par la sécurité physique, la nourriture, l'hygiène et le fait de dormir au sec. A signaler aussi un autre argument, une comparaison qui peut surprendre, mais qui ressort systématiquement au fil du débat. Les militaires, eux, sont bien souvent logés dans des abris PC des mois durant. Ils ne s'en plaignent pas. Ce type de logement serait donc acceptable pour les jeunes à l'armée, mais pas pour les demandeurs d'asile. Ils sont plusieurs, les auditeurs, à faire cette remarque.
Les Amazones, je vous pose la question. Les militaires peuvent séjourner dans les abris PC, mais pas les requérants, deux poids, deux mesures.
J'ai entendu ça hier. Non, il faut quand même rappeler que les militaires séjournent souvent pour de courtes durées et puis dans des conditions qui n'ont rien à voir, qui strictement rien à voir. D'abord, ils savent combien de temps ils passeront dans ces abris. Ils n'y passent pas la journée. Ils ont d'autres lieux où ils peuvent se ressourcer, se reposer durant la journée. Ce qui est, en tout cas, à Genève, je ne connais pas la situation vaudoise, en l'occurrence, pas le cas. Et puis, je tiens quand même à dire qu'on est face à des gens qui cherchent le refuge et le rétablissement. J'aimerais quand même réagir, surtout aux commentaires que l'on a entendus de la part des auditeurs, qu'on sent que cette façon d'opposer la population locale avec les réfugiés attise la méfiance et les préjugés vis-à-vis des réfugiés, et qu'elle est simplement, en tout cas de mon point de vue, détestable. Il faut quand même rappeler que, par exemple, à Genève, on trouve quand même la place de faire une prison, la place et l'argent de faire une prison pour de la détention administrative, et en parallèle on ferme des centres de requérants d'asile. Donc par conséquent c'est aussi une question de choix politique et de prévision qu'on fait pour loger ces gens. Aujourd'hui à Genève on a 2474 personnes qui sont logées soit dans les centres en surface, et justement 574 qui sont logées sous terre. Ces 174 personnes devraient trouver d'autres solutions, et on devrait aussi arrêter de spéculer sur le nombre de personnes qui sont reconnues comme non entrées en matière. Donc ça veut dire qu'elles devront être envoyées notamment dans des pays c'est plus complexe, mais dans des pays qui sont dans l'accord Dublin. Et on a spéculé sur ces personnes en se disant voilà, il y a un certain nombre de personnes qui vont partir dans les 3 mois, donc on peut bien les loger dans les abris de protection civile, si bien qu'on a banalisé ces logements et on n'a pas prévu les espaces nécessaires pour accueillir des gens, alors que les non-entrées en matière ont drastiquement diminué en 2014, et que c'est des gens qui sont amenés à rester en Suisse. Et donc les loger dans ces conditions, c'est simplement porter atteinte à l'ensemble de la population de notre pays, puisque on nuit clairement à leur capacité d'intégration, on crée une exclusion dont ils vont garder les stigmates, et on les empêche clairement d'apprendre le français dans des conditions de concentration simplement acceptables. Puis j'aimerais aussi revenir sur le fait que l'hygiène, justement, aujourd'hui, n'est pas adéquate et n'est pas offerte à ces personnes.
Un mot peut-être encore sur l'agacement qu'on a pu ressentir dans les messages des auditeurs, ce qui a été dit, ce qui a été écrit. Alexandre Casella, justement cet agacement, comment vous l'interprétez? Vous avez l'impression qu'aujourd'hui en Suisse c'est un peu difficile de demander d'ouvrir les bras, alors qu'il y a aussi des gens qui ont de la peine à trouver un logement, par exemple.
Alors écoutez, si vous regardez les statistiques de tous les pays industrialisés, j'insiste sur le mot industrialisé, la Suisse a celui qui a le plus d'étrangers. Je crois que c'est à peu près 23-24%. Et ces gens, dans l'ensemble, sont bien reçus. Donc je ne pense pas qu'on peut faire un procès à la Suisse en ce qui concerne sa relation avec les étrangers. Maintenant, si vous regardez le nombre de réfugiés, il est évident que le Liban, proportionnellement à sa population, a plus de réfugiés que la Suisse, venant de Syrie. Mais il ne faut pas oublier que la Syrie et le Liban, c'était, jusqu'il y a 80 ans, le même pays, la même culture, la même langue, les mêmes habitudes. Un Syrien au Liban, c'est comme un Fribourgeois dans le canton de Vaud. Et ça, c'est aussi une réalité. Un Syrien réinstallé en Suisse, mais 2 ans à s'intégrer, peut pas envoyer ses enfants à l'école parce qu'il ne parle pas la langue, etc., etc. Ce même Syrien réinstallé dans un pays du Golfe, qui, entre parenthèses, n'en accepte aucun, s'intègre dans les 48 heures. Donc, si vous voulez que la Suisse ne soit pas parfaite, certes, mais je pense que dans l'ensemble, en Suisse, s'en tire relativement assez bien.
Je vous propose maintenant qu'on écoute la réaction d'un auditeur. Michael, un auditeur qui a laissé un message sur notre application.
Oui, Jean-Gabriel Rey, un auditeur vaudois, héberge actuellement un demandeur d'asile chez lui. Il témoigne de quelques difficultés rencontrées avec l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Pour lui, les abris PC ont encore de beaux jours devant eux.
Les cantons ne devraient pas renoncer à loger des requérants d'asile dans des bunkers. C'est beaucoup trop rentable. Je l'ai appris à mes dépens. Un ami requérant d'asile a été transféré de son appartement dans un abri PC. J'ai proposé à Evam de l'accueillir chez moi. Evam a accepté, mais a renoncé à participer aux frais de son hébergement. Manifestement plus coûteux que ceux d'un abri PC sous terre. J'ai malgré tout décidé de l'héberger à mes frais. Je ne suis pas sûr que les cantons soient vraiment motivés à fermer ces hôtels souterrains si rentables. Il y aurait certainement des solutions si le canton le voulait vraiment. Je me pose la question simplement si la Suisse est toujours cette terre d'accueil qu'on prétend être.
Philippe Lebas, les abris PC, c'est rentable?
C'est rentable. Pour qui paye? C'est le contribuable qui paye, c'est l'État de Vaud qui paye la totalité des factures avec les subventions fédérales. Il n'y a pas de rentabilité. L'État ne gagne pas de l'argent en ouvrant des abris de protection civile. Au contraire, c'est des structures plutôt coûteuses en comparaison. Donc c'est le fait que l'accusation qui consisterait à dire que l'État essaie de se faire de l'argent, mais l'argent provenant d'où? Sinon de l'État lui-même et de la Confédération. Il n'y a personne qui paye l'État pour héberger des gens en centre de requérants d'asile. Cette accusation, elle est totalement sans fondement. C'est simplement l'expression d'une méconnaissance du système. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, j'aimerais quand même revenir sur ce que dit Mme Mazonnet de sa comparaison avec les militaires qui sont hébergés en abri de protection civile. Il faut d'abord constater que dans le canton de Vaud, à chaque abri de protection civile, est affectée une structure de jour qui héberge les requérants pendant la journée. Ça, c'est un premier élément. Madame Mazonnet n'a pas, probablement ne connaît pas cette réalité. Deuxième élément, les requérants eux-mêmes demandaient que les abris soient ouverts, y compris la journée. Et c'est de les discussions que nous avons avec les autorités communales que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait fermer ces structures la journée pour éviter les désagréments avec le voisinage et pour avoir une politique qui soit à la fois respectueuse des migrants d'une part, respectueuse des habitants des quartiers. Parce que, et je terminerai par là, moi je n'ai pas une seule commune dans ce canton. Et je suis sûr que M. Maudet vit la même chose. Une seule commune qui me téléphone le matin pour dire « Venez chez moi ouvrir un centre de requérants d'asile ». Ça n'existe tout simplement pas. Y compris les communes qui sont dirigées par les co-religionnaires de Mme Mazonnet. Personne, pas un syndic, pas un municipal, pas un membre d'exécutif, me téléphone en disant « Venez chez moi, j'ai une structure, j'ai un terrain à mettre à disposition de l'EVAM pour héberger ». Non, tout simplement parce que les gens savent bien que c'est une politique qui est difficile. Alors j'attends des élus de tous bords, de droite comme de gauche, d'abord qu'ils prennent en compte les efforts considérables qui sont faits par la Suisse et les Suisses pour l'hébergement des centres de requérants d'asile et qu'ils arrivent avec des solutions concrètes. Si Mme Mazonnet a un terrain pour héberger des requérants, elle peut téléphoner à M. Maudet, il y a de le bouton de téléphone à ma connaissance. Alors, et par voie de conséquence,
c'est pas M. Maudet qui gère à Genève l'hébergement des requérants d'asile.
Non, mais M. Maudet est en charge des questions migratoires.
Il nous reste très peu de temps. En 30 secondes, Lisa Mazon, parlons justement rapidement des solutions. Vous, au final, qu'est-ce que vous proposez pour faire en sorte de ne plus abriter les requérants d'asile dans des abris PC?
Voilà, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les réfugiés qui ont justement fui leur pays dans des conditions d'épreuves extrêmement éprouvantes pour eux, puissent être logés dans des conditions dignes. Donc concrètement, ça veut dire d'arrêter cet attentisme dans lequel on est, de prévoir des nouveaux centres d'hébergement, d'une part dans une planification et notamment en prévision d'un certain nombre de centres qui vont fermer aussi liés à des travaux d'aménagement en plus de ceux qui ont déjà fermé, et puis par ailleurs à plus court terme de pouvoir déplacer ces personnes qui sont logées déjà depuis un certain nombre de mois dans des structures provisoires, notamment justement en sollicitant les communes pour trouver des espaces vides, en sollicitant également l'Office des bâtiments, et puis en envisageant des structures temporaires du type container, comme on a pu aussi en mettre en place sur le canton de Genève il y a peu de temps pour des personnes sans abri.
Alexandre Casella, le mot de la fin, très rapidement, selon vous, la Suisse devrait se donner les moyens de faire mieux pour les requérants d'asile, ou elle en fait suffisamment?
Écoutez, on peut toujours faire mieux, mais on est limité par les moyens, on est limité par les afflux qui varient, et qui fait que les prévisions sont difficiles, si ce n'est impossible. Et je pense que si vous regardez ce qui se passe autour de la Suisse fait aussi bien, si ce n'est mieux que les autres.
Et on arrive déjà au terme de cette émission. Les cantons doivent-ils renoncer aux abris PC pour héberger les requérants d'asile? C'était la question du jour. Merci à Philippe Lebas, conseiller d'État vaudois, Lise Amazon, députée verte genevoise, et Alexandre Casella, ancien directeur du HCR, d'y avoir participé. Michael Pucker, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, n'oubliez pas que les débats se poursuivent sur les réseaux sociaux.